France Culture, Avoir raison avec Monique Wittig par Sophie-Catherine Gallet.
Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série L'Opoponax, une entrée fracassante en littérature. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à Monique Wittig. En novembre 1964, la photo d'une jeune femme de 29 ans apparaît dans le paysage littéraire français. Cheveux coupés en carrés courts et jambes croisées, elle pourrait incarner l'idée que l'on se fait alors de la jeune fille sage, si n'était son sourire en coin et son regard décidé. Monique Wittig vient alors d'obtenir le prix Médicis pour son premier roman publié aux éditions de Minuit, L'Opoponax, un roman sur l'enfance de plusieurs jeunes filles, écrit par un regard complètement objectif et dans lequel le pronom « on » prend une place singulière. Un prix décerné par un jury prestigieux composé d'écrivains appartenant au mouvement du nouveau roman, Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute ou encore Claude Simon. Un roman soutenu également par Marguerite Duras qui écrira à son propos un magnifique texte devenu la postface de l'Opoponax dans lequel elle déclare tout simplement que cette œuvre éclatante, c'est l'exécution capitale de 90% des livres qui ont été écrits sur l'enfance. C'est la fin d'une certaine littérature. Mon Opoponax est un chef-d'œuvre d'écriture parce qu'il est écrit dans la langue exacte de l'Opoponax. Mais quelle est cette langue de l'Opoponax? Où se loge la spécificité de ce roman? Nous y répondrons avec nos deux invités, Yannick Chevalier, maître de conférence à Lyon 2 en grammaire et stylistique française, co-auteur de Lire Monique Wittig aujourd'hui, spécialiste de l'articulation entre littérature et genre de Wittig ainsi que de Nathalie Sarraute. Bonjour.
Bonjour.
Et Anne Garetta, vous êtes à distance, romancière, vous êtes également professeure à Duke University, ainsi qu'à l'université Rennes 2. Vous travaillez vous aussi sur l'expression du genre dans vos romans, et notamment dans votre premier ouvrage Sphinx, publié en 1986. Vous avez également remporté le prix Médicis en 2002 pour Pas un jour, et vous avez écrit une préface pour la réédition de Paris la politique de Monique Wittig, à paraître en septembre prochain aux éditions POL. Bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'il correspond au fond à une prise de conscience de soi et aussi à la naissance d'un amour. Peut-être que la naissance de l'amour amène la conscience de soi, je ne sais pas. C'est l'intervention des autres, si on veut, oui. C'est aussi une chose obscure, ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer, c'est tout ce qu'on voudrait dire, tout ce qu'on voudrait exprimer.
L'Opoponax, c'est tout ce qu'on voudrait exprimer selon Wittig, de manière plus factuelle. C'est aussi l'histoire, on pourrait presque parler d'un roman d'apprentissage d'une petite fille, Catherine Legrand, et de ses compagnes d'école, de vie. Depuis la maternelle jusqu'à la dernière année scolaire, Catherine Legrand regarde, écoute, observe, vit, s'emporte, joue, étudie et tombe amoureuse entre les pupitres, les prés et les forêts. Monique Wittig donne souvent des titres étonnants à ses romans, hein, et le premier n'échappe pas à la règle. Yannick Chevalier, nous venons d'écouter la symbolique dont Wittig nourrit ce mot, mais l'Opoponax c'est aussi une plante, c'est un mot qui a une toute autre signification si on regarde dans le dictionnaire. Alors pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce mot, mais en détournant le sens ?
En effet, c'est un mot qui existe. C'est un terme technique de botanique qui est d'autant plus exotique pour un public francophone que c'est une plante qui n'est pas du tout endémique en France métropolitaine. Et comme tous ces termes techniques de botanique, ça signifie que c'est un terme qui est disponible pour qu'on y investisse le sens que l'on souhaite. C'est une sorte de signe vide dans lequel tout le monde peut se projeter et projeter en fait ce qu'il entend y mettre. Jérôme Lindon, en fait, il donne une définition de ce que c'est que l'Opoponax. Dans Paris Match, justement, cet automne 64, il dit « L'Opoponax de Monique Wittig, c'est le meilleur premier roman que j'ai publié depuis Beckett. » Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est une entrée assez fracassante dans la littérature, hein, d'être d'emblée comparé par l'éditeur des éditions de Minuit à Beckett qui, 5 ans plus tard, va recevoir le prix Nobel de littérature. Un Opoponax qui, en tout cas, va susciter beaucoup d'interrogations quant au contenu de sens que le texte, soulève. Et puis c'est aussi un mot qui, étant disponible, peut donner lieu en fait à tout un tas de transformations. Par exemple, Duras au moment des délibérations du prix Médicis, va sortir un bon mot. Elle va dire, lors des délibérations, il n'y avait pas d'opposant à l'opoponax.
Effectivement. Alors, il y a un autre mot aussi plus connu qui s'est développé à partir de l'opoponax, c'est le mot panacée, qui guérit tout. Et alors, je trouve qu'il y a dans ce récit aussi une tonalité de guérison, de réparation peut-être, en tout cas de don d'une enfance qui peut être celle de tout le monde, par l'émerveillement que décrit Wittig, par la découverte concise et vaste d'un lieu, par la description des jeux d'enfants. Un récit qui est guidé donc par une écriture objective, que certains disent froide, mais que je trouve au contraire extrêmement chaude. Alors, est-ce que la précision de l'écriture de Wittig, dénuée de subjectivité, ne donne pas justement toute la place au lecteur pour se projeter, comme vous le disiez déjà, Yannick Chevalier?
Alors, en fait, c'est moins une question d'objectivité que d'inventer d'autres manières de décrire le réel, de le décrire depuis un point de vue qui n'est pas un point de vue dominant en littérature, hein, c'est le point de vue des enfants sur le monde. À ce titre-là, il y a quelque chose d'assez révolutionnaire d'emblée qui permet aux lectrices et lecteurs de 64, mais aussi de 2023, de retrouver en fait en eux un certain souvenir, ou en tout cas un certain état d'esprit qui peut être le nôtre dans les premières années de notre vie.
Et donc, cet opoponax a reçu le prix Médicis en 64. C'est l'irruption de Monique Wittig dans la littérature française par la grande porte, effectivement, puisqu'elle est donc aussitôt adoubée par Jérôme Lindon, les écrivains du nouveau roman. La profonde originalité de ce roman se situe donc d'abord dans cette écriture totalement objective des aventures du quotidien d'une écolière, et ensuite et surtout peut-être dans l'utilisation du pronom « on » qui surplombe le récit. Mais qu'est-ce que ça représente, ce « on » ? Est-ce que c'est une manière donc de dépasser le genre ? Qu'est-ce que Monique Wittig a voulu faire avec cette utilisation ?
Alors ce pronom « on » va être d'emblée souligné par la critique journalistique dans l'automne 64. Hein. Alors, pour les gens qui sont plutôt hostiles au nouveau roman et voilà assez peu convaincus par l'opoponax, on va considérer que l'emploi de ce « on », c'est un procédé. Mmh. C'est voilà une innovation formelle, mais finalement
quelque chose d'artificiel presque.
Voilà, qui n'a pas beaucoup de sens, pas beaucoup de portée. Et au contraire, pour un certain nombre de journalistes et aussi pour les écrivains du nouveau roman, ce on en fait va se révéler une forme langagière extrêmement productive, extrêmement intéressante à exploiter. Parce que ce pronom, d'abord, il est assez méprisé par la culture scolaire. Hein. Quand on apprend à faire des rédactions, on nous dit qu'il ne faut pas employer « on doit employer « nous ». Et ça, c'est assez intéressant de promouvoir, en fait, une forme linguistique assez peu valorisée. Et ce « on », il a un intérêt aussi tout à fait certain, qui est qu'il ne marque pas le genre. En français, dans la série de nos pronoms, on a « je »,« tu ». Et puis, quand on veut parler de quelqu'un ou de quelqu'une, eh bien, on est astreint à... Enfin, on est contraint d'employer soit « il », soit « elle ». Mmh. Et « on » devient cette forme qui est tout à fait disponible pour désigner le personnage dont on parle, sans nécessairement avoir à rappeler systématiquement qu'on a affaire à une petite fille, à un petit garçon. Preciado a une belle formule à ce propos. Il dit que l'opoponax, ça évoque l'humanité avant le sexe. En réalité, enfin, c'est très simple pour d'évoquer l'humanité avant le sexe ou avant les identités de genre qui voilà s'imposent plus ou moins à nous. C'est on.
Anne Garetta, vous avez travaillé dans votre premier roman, donc Sphinx, la question du genre, en proposant un récit, une histoire d'amour entre deux personnes dont le genre, justement, n'est jamais dit. Ce qui permet donc au lecteur, en fait, d'y projeter vraiment l'histoire d'amour qu'il ou elle souhaite. Est-ce que, donc, l'opoponax a été pour vous une inspiration pour travailler, justement, le dépassement du genre par l'écriture? Et qu'est-ce que vous vouliez démontrer, vous, avec ce dépassement du genre, justement, dans votre roman, Anne Garetta?
Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que je n'ai lu... Monique Wittig que très tard, en réalité. Et au moment où j'ai écrit Sphinx, je ne l'avais pas encore lu. J'ignorais absolument ce qu'elle avait fait, comme par exemple en 1985, l'article qu'elle avait publié aux États-Unis dans Feminist Issues sur la marque du genre. Mmh. Donc j'ai travaillé de manière entièrement indépendante, et ce n'est que plus tard, quand je suis partie aux États-Unis, que j'ai découvert Monique Wittig. Bon, l'autre chose avec le pronom « on », c'est qu'il est non seulement épicène, mais qu'il est aussi indéterminé entre le singulier et le pluriel. On peut être un, deux, trois, plusieurs, une multitude, sous la référence du pronom « on ». Donc c'est une sorte d'embrayeur infiniment flexible qui permet de représenter tout le monde, n'importe qui, vous, moi, d'autres, sans nécessairement passer par une détermination. Oui. Bon, ça, c'est extraordinaire.
Oui.
La langue permet ça.
Oui.
Encore, faut-il avoir le courage d'employer sa langue en dehors des normes dans lesquelles on est élevé.
Ouais. Et justement, vous avez travaillé donc la grammaire, la langue par l'écriture, mais aussi le langage dans Ciel liquide, que vous publiez donc juste après Sphinx, où le héros perd l'usage, la compréhension de sa langue. Alors, est-ce qu'il faut oublier sa langue, en fait, pour la reconstruire autrement ?
Ouais. La question est analogue à celle que pose Wittig, qui serait « qu'est-ce qu'il y a avant le genre ?» Si on la pousse encore plus loin, c'est qu'est-ce qu'il y a avant la langue.
Mm.
Et c'est extrêmement difficile à penser.
Et vous le faites dans vos romans.
Parce que écrire est une manière très particulière de penser.
Oui.
Ce qu'on n'arrive pas à penser.
Et pour vous aussi, du coup, un changement de société peut intervenir aussi par la littérature. La littérature fait partie de ce qui peut donner un détonateur à des changements sociétaux.
Pas sociétaux, mais à quelque chose de plus archaïque encore que ça, qui est la manière dont les corps sont disposés les uns vis-à-vis des autres, la manière dont un corps devient un sujet ou dont on lui dénie toute subjectivité. Donc c'est pas une bombe qu'on place et qui détonne et qui fait tomber toutes les barrières. C'est plutôt, encore une fois, le cheval de Troie.
Mm.
Ça a un effet à distance, avec un certain délai.
Mm. Yannick Chevalier, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Anne-Garetta.
Oui, c'est important, en effet, de souligner que le « on », donc certes, neutralise l'opposition « il, elle », donc pour le genre, mais c'est vrai que pour le nombre, d'un point de vue grammatical, il est assez passionnant aussi, parce que « nous », c'est « je » plus « tu » plus « il » plus « elle », etc. C'est-à-dire, en fait, c'est le « je », celui ou celle qui parle, et puis des alter-ego. Mmh. Alors que dans « on a aussi ce collectif, hein, « je » plus « tu » plus « il » plus « elle », mais le « tu », le « il », le « elle », ce ne sont pas des alter-ego. Ce sont, en fait, des autres. Enfin, ce sont des autres du je, mais à une différence près. Donc, on peut le dire autrement aussi, on peut dire c'est les mêmes à une différence près. Et dans ce processus d'humanisation qui est narré dans l'Opoponax, eh bien, on a d'abord ce on, qui est en effet sans doute la posture dans laquelle on se trouve quand on est enfant et qu'on est en train de découvrir le monde, avec d'autres qui sont des autres qui en réalité sont des mêmes à une différence près, c'est tu n'es pas je, mais de ce on émerge en fait s'individue un je qu'on trouve aussi dans l'Opoponax, mais ces jeux là en fait sont le je de paroles, enfin de phrases tirées de la littérature. L'Opoponax finit par une très belle citation de Maurice Sève, hein, « Tant je l'aimais, qu'en elle encore je vis ». Ce « je » là, en fait, c'est la forme qui se révèle être disponible pour s'exprimer soi.
Quand on
émerge du on.
Ouais, ce qu'on n'arrive pas à exprimer, pour reprendre ce que disait Monique Wittig en introduction. Et c'est aussi donc le premier cheval de Troie, hein, wittigien, c'est Oboponax, parce que donc il y a Catherine Legrand, mais il y a aussi Valérie Borges qui est donc l'amoureuse de Catherine Legrand. Et c'était quelque chose qui a pas du tout été vu par la critique contemporaine, cette histoire d'amour lesbienne.
Alors. On peut aujourd'hui en fait facilement lire l'Opoponax comme une romance lesbienne, comme une histoire d'amour entre deux petites filles. Mais avant de développer ce point, il me semble important de rappeler ce que Wittig écrit dans l'avant-note à la Passion de Djuna Barnes, donc qui est un texte qu'elle écrit au début des années 80, où elle dit ceci. Elle dit: une œuvre qui accueille un thème tel que l'homosexualité ou le lesbianisme voit une de ses parties prises pour le tout, un des éléments constituants du texte pris pour tout le texte et le livre devenir un symbole, un manifeste. Quand cela arrive, le texte cesse d'opérer au niveau littéraire, il est l'objet de déconsidération. Ça devient un texte à thème social. L'histoire d'amour entre Catherine Legrand et Valérie Borges, finalement, n'occupe que quelques pages dans l'Opoponax. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans la réception contemporaine, donc de l'automne 64, cette dimension est très peu mentionnée par les journalistes. À deux grandes exceptions, dans la presse, on va dire, de droite, on a la mention, en fait, de cet amour entre Valérie Borges et Catherine Legrand, et tout ceci est traité de manière un peu grivoise. Et il y a un article de l'Humanité qui met en lien cet amour entre ces deux jeunes enfants, entre Catherine Legrand et Valérie Borges, qui met en lien donc cet amour-là avec une dimension féministe du texte qui n'apparaît pas, en fait, dans la réception de 1964. C'est, au contraire, plutôt cette dimension-là, en fait, qui nous saute aux yeux aujourd'hui, en 2023.
Oui, donc c'est vraiment un premier cheval de Troie qui pénètre un tout petit peu la société pour nous aider un tout petit peu à changer de prisme, à déplacer légèrement le regard. Et alors donc l'écriture de Wittig se caractérise aussi par la répétition de mots qui semblent presque exprimer un besoin de d'épuiser le réel pour en révéler toute la substance, pour en retenir peut-être plus que l'essence et laisser éclore l'émotion. Et c'est vraiment ce qu'on entend dans cette lecture.
On ne parle pas. On écoute les bruits. Il y a des vols d'insectes saccadés tout près. Quand ils ont fini, on entend du silence, puis un bourdonnement continu et qu'on dirait lointain. On se rend compte que c'est le bruit fait par tous les insectes qui sont en train de voler à ce moment-là, que c'est un bruit très fort qui ne peut pas se confondre avec le bruit des gens qui sont dans les champs. On se rend compte avec ce bourdonnement qu'il y a là un monde différent duquel il n'est pas possible de faire partie. On se frotte les oreilles parce que le bourdonnement devient de plus en plus insistant, de plus en plus continu. On arrive à le percevoir comme une stridence unique et insupportable. On finit par se demander s'il ne vient pas de soi. On se bouche les oreilles même, mais quand on enlève les doigts, il ne s'est pas relâché. De temps en temps, une grosse mouche ou une abeille ou un frelon se pose tout près. Ça fait alors un bruit mécanique, un ronronnement particulier à l'origine précise, puis ça retourne à l'autre bruit, au grand bruit de fond. Ça s'y perd. On a l'impression d'entendre quelquefois les pas de quelqu'un qui s'approche, on se tasse contre la terre, on sent son cœur battre contre les genoux qu'on tient collés à la poitrine. Une musaraigne ou un rat passe et c'est fini. On attend au milieu des blés que le soleil descende. Les gens alors quittent les champs. C'est plein de couleurs à cette heure parce que la lumière n'est pas brutale. Il y a de grandes ombres ocres sur les blés le long de la forêt. Il y a au-dessous des arbres de grands noirs qui font comme des taches d'encre. Il y a des outre-mer qui tombent sur les bandes de forêt qu'on voit au bas du ciel. Au-delà, on ne peut plus rien voir parce que c'est l'horizon.
France Culture, avoir raison avec Monique Wittig par Sophie-Catherine Gallet.
Je crois que les souvenirs, c'est plus intéressant de les fabriquer et à partir de là, de reconstituer une impression qui est propre à un souvenir, à ce qu'il reste d'un souvenir. Il reste une impression, et à partir de cette impression, on essaie de reconstituer un souvenir. Et je crois que de cette façon, on arrive beaucoup plus à voir la tonalité du souvenir qu'en essayant de traduire le souvenir en lui-même.
Ça a été facile ?
Non, ça a été assez difficile.
Oui, on s'en doute que ça n'a pas été très facile. Donc ce mélange entre, j'ai presque envie de dire, presque ultra-réalisme et surgissement de l'émotion, en fait, est-ce que pour vous, Yannick Chevalier, c'est ça, la langue de l'Opoponax que désigne Duras?
Oui, bah c'est une vraiment en fait une ambition de révolutionner les formes déjà là, bouleverser en fait voilà la mimésis, la représentation en fait du réel tel qu'on en hérite, pour dire autre chose, le lesbianisme, l'amour, mais pas seulement ça. Hein, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. On lit ceci, on se rend compte avec ce bourdonnement qu'il y a là un monde différent duquel il n'est pas possible de faire partie. Mm. Bah, qu'est-ce que c'est que ce monde duquel il n'est pas possible de faire partie? Bah, c'est le monde tel qu'il s'offre à vous dans votre enfance, dont on ne peut faire partie parce qu'on est trop petit, qu'on n'a peut-être pas tout compris encore. Mais en tout cas, ce monde est là et il est espace d'expérimentation, espace de sensation qu'il importe de dire, non pas dans les formes héritées, mais dans une forme qui soit apte à pouvoir dire le réel. Donc, d'un certain point de vue, vous avez raison de parler de réalisme au sens phénoménologique du terme, en fait. C'est pas ce faux univers qu'on pense être la réalité, mais c'est un univers qu'il convient de dire avec des formes qui soient le plus possible sincères par rapport à ses sensations premières.
Et c'est la question du souvenir donc, qui revient aussi et Monique Wittig disait longtemps que le cinéma s'est inspiré de la littérature et que désormais c'est la littérature qui s'inspire du cinéma. Le souvenir, le temps, c'est aussi la nourriture même du cinéma. Et Monique Wittig développe son intérêt pour le cinéma de Godard, notamment dans un article qu'elle publie en anglais en 66 et qui n'a que récemment été traduit en français par Théo Mention. Elle y parle d'une esthétique de la lacune, de la discontinuité. Et est-ce que ce serait aussi ça, en fait, l'idée du non-dit, de ce qui exprime entre les lignes, l'art du montage finalement qui mène à la suggestion, qui plairait à Wittig? Est-ce que ça, c'est ce que vous retrouvez aussi dans ces romans? Est-ce que dans l'Opoponax en particulier?
Oui, c'est assez clair. Quand on lit l'Opoponax, on a une impression de fluidité, hein, puisqu'on a affaire à une masse textuelle sans paragraphe, sans retour à la ligne, etc. Donc un effet de continuité, et puis en effet des impressions de discontinuité. Hein, les épisodes se juxtaposent les uns aux autres, mais ça, le cinéma, en fait, nous a formés, enfin, le cinéma des années 50 et des années 60, en fait, nous a formés à interpréter correctement ce mode de composition par juxtaposition, puisque quand vous regardez un film, vous vous posez pas la question de savoir ce qui se passe entre le moment où un personnage sort du plan et puis le moment où on le retrouve plus tard. Donc là, il y a une appropriation par Wittig de l'esthétique du montage, sans doute dans les années 50-60, a-t-elle fréquenté justement les cinémas du Quartier Latin, a pu lire aussi tous les essais qui sont consacrés par exemple au montage dans le cinéma soviétique des années... Des années 30, hein, l'effet Kouletchov fonctionne à plein quand on lit l'Opoponax. Et puis, par ailleurs, c'est aussi, en fait, le cinéma, c'est aussi une signe d'une très grande modernité. Alors, c'est un petit peu plus tard, mais Pérec, dans La Disparition, il évoque Monique Wittig, par exemple. Oui. Alors, il dit l'Opoponax par Monica Wittig.
Oui.
Et il ne peut pas dire, évidemment, Monique Wittig, mais c'est assez rigolo de voir que Monica Wittig, d'un seul coup, entre en résonance avec Monica Wittig.
Oui,
donc,
oui.
C'est ce cinéma-là, en fait, qui nourrit l'écriture wittigienne et plus largement l'écriture du nouveau roman, hein, celle d'Antonioni, de René...
Et donc, il y a donc cette idée du non-dit, de faire se rencontrer des phrases qui pour dire autre chose. Et donc, ça se retrouve aussi dans le on qui exprime ce qu'on ne peut pas dire. Anne Garetta, vous êtes membre de l'Oulipo aussi, donc l'ouvroir de littérature potentielle, ce groupe de recherche, travail autour du langage, dont a notamment donc fait partie Pérec, dont on vient de parler, qui joue de la contrainte, lui, à oublier la lettre E pour son récit La Disparition. Est-ce que pour vous, la contrainte qu'on s'impose, c'est important? Est-ce que c'est ça, justement, en fait, qui permet aussi de dire ce qui paraîtrait peut-être indicible, d'inventer les mots qui manquent, les émotions qui paraissent peut-être intraduisibles, Anne Garetta?
C'est la forme avant la contrainte qui est importante. La contrainte n'est qu'un des outils possibles pour atteindre la forme. Mais pour ce qui concerne Wittig, elle a très clairement dit un peu plus tard qu'elle aurait voulu en réalité faire du cinéma, mais que le cinéma ça coûte cher et qu'elle s'est donc contentée de faire du cinéma avec du papier, un stylo... Et des ciseaux.
Non, parce qu'on peut
et
vraiment,
c'est en effet le cas.
Ouais. On peut vraiment imaginer dans le on, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vraiment vu comme ça, je sais pas si vous serez d'accord, Anne Garetta, mais dans le on, justement, c'est presque un regard de la caméra, en fait.
Vous avez absolument raison. Maintenant, la différence, c'est quelle différence entre le regard d'une caméra et le regard d'un sujet humain psychologique standard? C'est que la caméra capture des choses que le regard humain préfère ne pas voir.
C'est vrai.
Et c'est ça le réalisme réel de Wittig, c'est que des choses qui autrement passeraient inaperçues parce qu'elles seraient filtrées par nos normes ou par nos préférences, rentrent dans sa phrase, comme dans un plan.
Bon, malheureusement, on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est terrible, ça passe vraiment beaucoup trop vite, mais en quelques mots, Yannick Chevalier, on sait que Monique Wittig a été dans le nouveau roman, mais elle a aussi contribué à politiser ce mouvement qui était extrêmement, qui n'était pas du tout politisé avant elle. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous faire cette ouverture?
Oui, On dit souvent en fait que le nouveau roman en fait est un roman qui se veut apolitique, etc. C'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où les écrivains et écrivaines du nouveau roman en fait ont refusé de manière très très nette les thèses existentialistes qui dominent dans les années 50 et 60 sur la littérature engagée. Ça, il est certain que le nouveau roman ne veut pas en entendre parler. Néanmoins, en fait, parce que en fait on refusait la théorie de l'engagement, par induction on concluait que le nouveau roman n'était pas politique. Or en fait, si on lit véritablement les nouveaux romans, Claude Simon publie Le Palace en 62, et en fait cette idée du nouveau roman, c'est quand même de révolutionner les formes et de refonder le régime de la représentation, et ça a quelques conséquences politiques assez importantes. Hein. Audrey Lorde, elle dit qu'on ne va pas détruire la maison du maître avec les outils du maître. Eh bien, là, le nouveau roman, en fait, a forgé de nouveaux outils, sans doute pour ne pas laisser intacte la maison du maître.
Et grâce à Monique Wittig, en partie. Et nous nous quittons donc au sein d'une musique de Mélissa Lavaux. Merci à nos deux invités, Yannick Chevalier, je rappelle que vous êtes maître de conférence en grammaire et stylistique française, Anne Garetta, vous êtes romancière. Une émission réalisée par Daphné Leblond, préparée avec Corinne Amar et Laura Dutèche-Pérez, avec Ruben Carmazine à la technique. Un grand merci à elle, un grand merci à lui, et un grand merci également à nos collègues de France Bleu Gironde, et notamment à la technique Antoine Muel. Et merci à Daphné Leblond pour sa lecture de Le Poponax. Tastes better. Demain, nous explorerons les liens entre l'engagement militant et la littérature à travers deux textes de Monique Wittig, Les Guerrières et Paris la politique, parus respectivement en 69 et en 99, en compagnie d'Ilana Eloi, Chloé Jackson et Benoît Auclair. À demain et bon après-midi à l'écoute de France Culture.